Bonjour. Si vous avez eu la feuille qui est là, vous avez dessus ce que Pierre-Yves pensait être le plan de la prédication d'aujourd'hui. S'il le pensait, c'est parce que je lui avais donné comme ça. En fait, en peaufinant un petit peu ce que j'avais préparé, je me suis dit que c'était pas du tout raisonnable et qu'aujourd'hui nous n'allons faire qu'une partie de ce que j'avais prévu au départ de faire. Alors dans une prochaine prédication, plus tard, je vous poserai la question « À quoi peut bien vous servir votre Ancien Testament ?» Je proposerai peut-être, de l'arracher purement et simplement de votre Bible. Certains l'ont fait dans l'histoire de l'Église. Certains l'ont fait même très tôt dans l'histoire de l'Église. Un certain Marcion avait dit « Non, 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 mais qu'est-ce que c'est que ces vieilleries? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu de l'Ancien Testament ?» Ne gardons que le nouveau, et encore lui, il n'en gardait que des petits bouts. Pourtant, dès aujourd'hui, j'aimerais proposer une réponse à cette question. À quoi sert l'Ancien Testament? Il nous sert à authentifier la vie de Jésus-Christ comme étant vraiment celui qui était promis. Et aussi, à l'authentifier et aussi à bien la comprendre. Jésus a dit aux pharisiens qui étaient autour de lui, il leur a dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Et quand il parle des Écritures, là, c'était l'Ancien Testament, bien sûr. Le Nouveau n'était pas encore écrit. « Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc je vous propose de faire un petit parcours dans l'Ancien Testament, qui sera d'ailleurs un long parcours, puisque nous n'en ferons qu'un petit bout aujourd'hui, un peu comme un itinéraire que nous allons suivre avec des routes qui convergent vers notre Seigneur. Quelqu'un a dit que le plus grand des Français qui a jamais existé, c'était Blaise Pascal. Je ne suis pas assez connaisseur en philosophie pour dire si c'est vrai ou pas, mais lui a dit que la plus grande preuve de Christ, ce sont les prophéties. Et ce sont ces prophéties que nous allons voir, en sachant qu'il y a là une authentification réciproque, c'est-à-dire que lorsqu'une prophétie annonce un événement qui s'est réalisé, c'est à la fois une caution pour l'événement qui se réalise, la vie de Jésus, et une caution aussi sur le sérieux de la prophétie qui s'est réalisée, surtout si elle a été écrite bien des siècles avant que l'événement se réalise. Et les prophètes, ceux qui ont écrit l'Ancien Testament, s'étaient posé des questions au sujet de ce qu'ils écrivaient eux-mêmes. J'aimerais lire avec vous dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, et au verset 10, ce texte qui dit que le salut dont parle l'apôtre Pierre au lecteur de son épître, ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes, ceux qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux, et annoncer à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elle serait suivie. Ils se posaient des questions, ces prophètes. À quoi se réfère ce que je suis en train d'écrire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et verset 12, il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé l'Évangile. Alors, quand on regarde une carte, un itinéraire, on voit des routes et on voit un peu, sur les cartes Michelin, on voit un peu le paysage. On voit un peu si ça va être montagneux, s'il va y avoir des forêts, s'il y aura des routes touristiques. En général, il y a des petits signes qui nous montrent ça. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a des prophéties directes qui concernent Jésus, mais il y a une foule de données qui préparent la suite. Qu'est-ce que nous comprendrions de la vie de Jésus si l'Ancien Testament ne nous avait pas appris des choses toutes simples comme la notion de bien et de mal, comme la notion de péché, comme la notion d'un Dieu qui réclame justice? Tout cela a créé un paysage sans lequel la mission de Jésus serait complètement incompréhensible. Alors, il y a quelques diapos qui passent pas, je suis désolé. Normalement, c'était pas blanc. Mais voilà, à quoi ressemblerait la mission de Jésus si on n'avait pas eu une préparation avant? On n'y comprendrait rien. Pour comprendre la vie de Christ, il a fallu donc qu'il y ait un paysage qui ait été donné. Alors, je l'ai imagé avec une carte. Une carte, pour comprendre une carte, ben là il y a de la terre, là il y a de la mer, le pays qui nous concerne il est en blanc, enfin voilà. Alors dans le paysage typique, je l'ai appelé comme ça parce qu'il y a des types dedans. Dans les annonces qui concernent Jésus, il y a des événements, des objets qui annoncent déjà Jésus sans être une prophétie directe. On appelle ça des types. Par exemple, on a chanté tout à l'heure un chant qui dit « Agneau de Dieu ». On parle de Jésus quand on dit « Agneau de Dieu ». Mais si on n'avait pas, dans l'Ancien Testament, une préparation qui nous dit ce que c'est que l'agneau de Dieu, ce serait un titre complètement incompréhensible. Alors, je vous ai mis quelques types, là. Est-ce que vous arrivez à les reconnaître? Alors, c'est un peu flou, hein, mais bon, ça, là-haut. Le sacrifice d'Isaac, oui. Alors, en quoi c'est un type de Jésus? C'est le Père qui sacrifie son Fils. Et puis, il y a la notion de substitution aussi, puisqu'au dernier moment, il y a un agneau qui arrive. Enfin, un bélier. Ça. Le serpent des reins. Alors, en quoi c'est un type de Jésus? C'est celui qui sauve. Et qui sauve en le regardant, avec la foi, en le croyant qu'il va vous sauver. Hein? Et Jésus lui-même va s'emparer de ce symbole, puisqu'il va dire à Nicodème, hein, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, je suis désolé. Attendez, je bouge. Alors, c'est des gens qui ramassent quelque chose. La manne, oui, la manne. Alors, en quoi c'est un type de Jésus? Je suis le pain de vie, et oui, hein, quand les Israélites de son temps lui diront « Mais Moïse nous a donné le véritable pain qui vient du ciel », Jésus dira « C'est moi le vrai pain qui vient du ciel ». Et ceci, je suis désolé pour ceux qui font fond. Voilà, le sang sur le linteau, c'était quoi? C'était quel moment? La sortie d'Égypte, la Pâque, enfin la sortie d'Égypte, voilà, hein. Donc, oui, c'est le sang sur le bois qui coule et qui sauve et qui évite le châtiment. Et puis, ici, les sacrifices en général, hein, avec le titre d'agneau de Dieu qui est donné à notre Seigneur. Est-ce que vous pouvez en citer d'autres? Allez, il n'y a pas que moi qui travaille, là. Des hommes de Dieu comme Joseph, oui. Non, ça ne vous dit pas? le type du rédempteur, celui qui a le pouvoir de rachat. Ça, c'est un type qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Dans les histoires, le grand jour des expiations, qu'on célébrait une fois par an, et qui était celui où Dieu pardonnait toutes les fautes. Et il y avait un bouc qui devait porter tous les péchés du peuple et qu'on chassait dans le désert, le bouc émissaire. Le rocher frappé qui donne de l'eau, etc., etc. Alors, voilà, on a un paysage typique, mais on n'a pas de route. Et je vous invite à suivre des routes. Alors, je vais vous donner, prenez pas peur, hein, c'est un petit aperçu de ce qui vous attend. Ça va? Je ne ferai pas une interrogation écrite aujourd'hui. Je vous invite à considérer les routes qui mènent à Jésus-Christ, c'est-à-dire les prédictions, ce qui est annoncé à l'avance qui le concerne et qui vont permettre de comprendre ce qu'il est vraiment venu faire. Alors, j'ai mis trois routes principales que j'ai mis en rouge, hein, c'est des nationales. Hein. La route du Messie-Roi, fils de David. Première piste, c'est celle qu'on va suivre aujourd'hui. Et puis, on verra une autre fois la route du serviteur souffrant. Et on verra aussi que ces routes, il y a des moments où elles ont des liens les unes avec les autres. Et puis, on verra peut-être encore une autre fois la route du Fils de l'homme. Ce titre que Jésus s'est donné et qui vient d'une prophétie de Daniel 7. Ça, c'est les grandes routes. Celle dont il est abondamment parlé et celle auquel il est souvent fait référence dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Et puis, il y a des petites routes qui viennent compléter ce réseau, avec la petite route de la descendance de la femme. Vous savez, en Genèse 3, quand Dieu dit à Ève, « Eh bien, ta descendance écrasera le serpent ». Oh, c'est pas très développé, c'est une toute petite route, mais c'est une route intéressante. Moïse, qui en Deutéronome 18, annonce qu'il viendra un prophète comme moi, comme lui. C'est une petite route. Et le psaume 110, qui à lui tout seul nous fait deux routes. La route du roi prêtre. Vous savez que le roi ne pouvait pas être prêtre, ce n'était pas possible. Et pourtant ce psaume dit, enfin dans l'Ancien Testament, et ce psaume nous annonce un roi prêtre. Et pas prêtre comme les fils de Lévi, mais prêtre comme Melchisédek. Voilà, c'est une petite route. Et puis, et encore, c'est dans ce psaume 110, et puis on retrouve ça en Malachie, la route du Seigneur qui vient lui-même. Où finalement, on voit que celui qui va venir, c'est le Seigneur lui-même. Alors, je vous invite à suivre la route du Messie, roi, fils de David. Voilà, une belle route, enfin de l'époque. C'est une voie romaine, oui, oui, tout à fait, c'est une voie romaine. Il a fallu longtemps pour que je trouve une borne sur laquelle il était marqué « Route du Messie, roi, fils de David ». Comme je ne l'ai pas trouvé, je l'ai écrit moi-même. Alors, voyons cette route. Elle commence ici, deuxième livre de Samuel, chapitre 7. Elle commence avec le désir de David, du roi David, de construire une maison pour Dieu, c'est-à-dire de construire le temple. Et Dieu va refuser. Et il va annoncer à David, par l'intermédiaire de Nathan, on trouve ça donc 2 Samuel 7, verset 12, et les suivants, que c'est Dieu qui va construire une maison à David. Ce n'est pas David qui va construire une maison à Dieu, mais Dieu qui va construire une maison à David. Et dans ce terme de maison qui est employé, on voit par la suite qu'il est question de sa descendance. Je vous lis ce texte, 2 Samuel 7. « L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. » Il est question de Salomon, le fils de David. « Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec le coup des humains, les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » Donc Nathan annonce à David que Dieu va lui susciter toute une ligne de descendants qui ne s'arrêteront jamais. Et que parmi eux, un descendant particulier, ça c'est pas tellement le deuxième livre de Samuel, mais les autres prophéties qui vont nous le dire, un descendant particulier qui aura un royaume sans fin, qui ne s'arrête pas. Alors cette prédiction, c'est le point de départ. C'est le point de départ de l'attente pour les Juifs de ce roi, le fils de David. Alors, effectivement, les rois, les descendants de David vont se succéder. Et plus ils se succèdent, plus ils déçoivent. Plus ils s'éloignent de Dieu, plus leur règne est marqué par la corruption, par les idoles. Au point que le prophète Amos, dans son chapitre 9, va décrire cette maison comme une cabane écroulée. Amos 9, verset 11, et il a une promesse. « En ce jour-là, je relèverai la cabane chancelante de David. » La fameuse maison que Dieu avait promis était devenue une cabane chancelante. J'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines, je la bâtirai comme elle était autrefois, afin qu'ils entrent en possession du reste des hommes et de toutes les nations. Écoutez, c'est intéressant. Afin qu'ils rentrent en possession de toutes les nations, c'est-à-dire pas que les Juifs. Ésaïe, lui, qui a vécu un tout petit peu plus tard, va avoir une autre vision, mais qui est complémentaire. Il va remplacer la cabane par une forêt dévastée, une forêt abattue. Je vous lis Ésaïe 10, verset 33. Voici le Seigneur, l'Éternel, qui brise les rameaux avec violence. Les plus hauts de stature sont coupés, les plus élevés sont jetés bas. Il abat par le fer les taillis de la forêt, et le Liban tombe sous le puissant. Voilà la forêt abattue. Plus d'arbres. Les chefs sont à terre, les plus grands. Alors, les questions du Liban. Pourquoi le Liban? À cause des cèdres. Le Liban était, il est toujours d'ailleurs célèbre par ses cèdres. Le drapeau du Liban, il y a toujours un cèdre dessus. Et quand on voulait à cette époque-là dire un grand arbre, on disait le Liban. Mais Ésaïe continue. On ne va pas s'arrêter à cette forêt dévastée. Il continue. Donc c'est la suite, c'est le chapitre 11. Et il nous dit, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Ésaïe, chapitre 11, verset 1. Alors, pas confondre Ésaïe et Isaïe. Ésaïe, c'est celui qui écrit le texte. Ésaïe, Isaïe, on dit aussi Jessé, c'est le père de David. Voilà. Donc là, il est question du tronc de Jessé, le père de David. Un rameau sortira du tronc. Il vient de dire, tout est abattu, la forêt est rasée, il n'y a plus cette continuité des rois. Mais voilà qu'un petit rameau est en train de jaillir. Alors, je reprends ma lecture. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe et le rejeton de ses racines fructifiera. Et l'Esprit du Seigneur sera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'arbitrera pas selon un oui-dire, il jugera les pauvres avec justice. Avec droiture, il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses hanches. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Nous reconnaissons là la description de la mission de Jésus, sur qui l'Esprit de Dieu repose. Et nous voyons que la mission de Jésus, elle n'est pas terminée. Il y a des choses qui restent encore à faire. Et quand on lit ce texte, on s'aperçoit qu'on tombe dans un royaume qui n'est pas encore là et qui sera merveilleux. Le loup habitera avec l'agneau, le nourrisson jouera avec la vipère. Voilà ce que nous annonce ce texte. Et on peut continuer. Alors en ce jour, donc on est en Ésaïe 11, verset 10. Alors en ce jour, la racine, on est toujours avec notre petit rameau, tout faible. Les mages cherchaient le roi des Juifs. Ils pensaient le trouver dans un palais. Et ils ont trouvé une simple famille. Toute simple. C'est pour ça qu'ils sont allés voir Hérode en disant, mais dis-nous où est le roi des Juifs. Mais Hérode ne le savait pas. Les grands de ce monde l'avaient oublié. Les humbles de ce monde le savaient. Et Dieu le savait, qui pointait de son étoile l'endroit où était l'enfant. Un petit rameau. En ce jour-là, la racine d'Isaïe se dressera comme une bannière pour les peuples. Elle sera recherchée par les nations. Ça, c'est bien, parce que c'est nous, ça, les nations. Nous, on n'est pas trop concernés par les prophéties qui concernent que le peuple juif, enfin, à moins qu'il y ait des Israélites parmi nous. À ma connaissance, je ne le suis pas. Donc, je suis toujours intéressé par les promesses qui disent que Dieu s'intéresse aux nations, donc à moi. Et son emplacement sera glorieux. En ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, qui sera resté en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, en Élam, à Chiné, à Rahamat et dans les îles de la mer. Il élèvera une barrière pour les nations. Et tu diras en ce jour-là, « Je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée. Tu m'as consolé. Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur. Car l'Éternel est ma force et mon chant, il est devenu mon salut. » Vous direz en ce jour-là, « Louez l'Éternel, invoquez son nom. » Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, rappelez que son nom est sublime. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et triomphe, habitante de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Donc Ésaïe a reçu cette révélation que le jugement va passer sur les rois descendants de David, que les arbres seront abattus, mais qu'un rejeton va jaillir. Un rameau qui sort d'une souche et qui grandit, qui devient roi, et qui devient un roi beaucoup plus magnifique que le simple roi d'Israël, puisque c'est le roi de toutes les nations. C'est le roi de toute la terre. C'est le roi envers qui tout le monde devra s'incliner. Ésaïe, toujours lui, va recevoir deux autres prophéties importantes. D'abord, la naissance de ce roi va être extraordinaire. Elle sera marquée par un signe que Dieu lui-même opérera. Vous connaissez ce texte, le prophète essaie de convaincre le roi impie Ahaz, le roi de son époque, de se confier en Dieu. Et il lui propose de demander un signe à Dieu pour être éclairé que c'est bien Dieu qui doit être honoré. Et le roi Ahaz refuse de demander un signe à Dieu. Alors, Dieu lui-même va proposer un signe, pas que pour Ahaz, mais pour toute la maison de David. On trouve ça en Ésaïe 7 et au verset 13. Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. » Ah ça, on le lit souvent à Noël, hein ? Mais c'est valable 365 jours par an, et même pire les années bissextiles. Voici que la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Ésaïe annonce donc que Dieu va donner un signe. La jeune fille sera enceinte. La jeune fille, le mot Alma, terme qui est utilisé ici, n'est jamais employé pour une femme mariée. Même si, techniquement, ce n'est pas le terme qui veut dire vierge, ça veut dire jeune fille. Lorsque les Juifs, au IIe siècle avant Jésus-Christ, ont voulu traduire leur Ancien Testament en grec, ils ont compris que ce terme jeune fille voulait dire vierge, même si ce n'était pas ce... Et ils l'ont traduit en grec en utilisant le mot parthénos, qui veut vraiment dire vierge. Et puis on peut se demander... en quoi ce serait un signe venant de Dieu, en quoi ce serait extraordinaire si c'était juste une jeune femme qui tombe enceinte. Ça arrive un peu tous les jours, ce genre de choses. Donc cet enfant qui va naître, va vraiment naître dans des conditions extraordinaires d'une toute jeune fille, d'une jeune fille vierge au moment de sa naissance. Et la naissance miraculeuse de Jésus est donc une confirmation de ce que Ésaïe avait dit, 750 ans à peu près avant Jésus-Christ. Un peu plus loin, dans son livre, Ésaïe nous parle encore de cet enfant. Et on trouve ça à Ésaïe 9, au verset 2. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. On progresse tout doucement sur la route. Hein. On est là, par là. Ne vous inquiétez pas trop. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Car pour nous, un enfant est né. Un fils nous est donné. Le quart est important. Pourquoi est-ce que les gens qui étaient dans les ténèbres voient la lumière? C'est à cause d'un enfant qui arrive. Il exercera l'autorité royale. Je vous avais promis qu'on était sur la route du Messie roi. On est bien sur. Il est bien question d'un roi. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu héros, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur dans son ardent amour. un enfant nous est né, qui apporte une grande lumière. On appellera son nom, dit le texte, et là il y a quatre paires de mots. Merveilleux conseiller, Dieu héros. Voilà, cet enfant on l'appelle Dieu héros. Ce terme Dieu héros, Ésaïe va l'utiliser exactement mot pour mot quelques chapitres plus loin en parlant de l'Éternel, de Dieu le Père. Et voilà que cet enfant qui naît, on l'appelle Dieu héros. On l'appelle Père d'éternité. On l'appelle Prince de paix. Jamais aucun roi n'a porté un titre de ce genre, même les plus gonflés d'orgueil de toute notre histoire. Cet enfant, on commence à discerner qu'il sera plus qu'un saint homme, mais qu'il sera Dieu lui-même. Difficile à discerner pour les gens de l'époque d'Ésaïe. Déjà en Ésaïe 7, Ésaïe avait prévenu, on l'appellera Emmanuel, on l'appellera Dieu avec nous. C'était difficile à imaginer, et ça a été difficile à réaliser même pour les gens contemporains de Jésus. Il a fallu que Thomas constate lui-même la marque des clous dans le corps de Jésus ressuscité pour qu'il s'incline et qu'il dise « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mon Seigneur et mon Dieu. Alors, il n'y a pas que Ésaïe qui a écrit sur ce roi. Il y a Michée. Michée qui vivait à peu près à la même époque qu'Ésaïe. Et qui nous donne une toute petite information, mais qui est quand même intéressante. Qui nous dit en Michée 5, « Et toi, Bethléem, la ville, village de Bethléem. » Maintenant, c'est une ville, mais à cette époque-là, c'était un village. J'ai eu de la peine à trouver une photo de l'époque de Bethléem, enfin de Bethléem à cette époque. Et toi, Bethléem, toi qui es petite parmi les milliers de Juda. Bethléem, c'était un tout petit village. Il avait juste un titre de gloire, c'est que c'était le village du roi David, le village d'origine du roi David. Et toi, Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. De ce petit village, Bethléem, sortira le chef. Ça sera le fils de David, mais il ne viendra pas de la capitale, vous avez vu. Il ne viendra pas de Jérusalem. Depuis l'époque de David, c'est Jérusalem qui avait été choisi comme capitale et les rois étaient à Jérusalem. Mais là, ce n'est pas... C'est le petit rejeton dont on parlait tout à l'heure. Mais un petit rejeton dont l'origine remonte au jour d'éternité. Ce n'est pas un roi qui a commencé à vivre le jour de sa naissance, ni même le jour de sa conception, mais dont l'origine remonte au jour d'éternité. Encore une fois, un petit indice que c'est une origine plus qu'humaine qui caractérisera ce roi merveilleux. Alors, d'autres textes nous en parlent. Le psaume 110, mais on le verra sur une autre route. Le livre de Jérémie qui nous dit au chapitre 23, « Voici venir le temps où je vais donner à David un germe juste. » Il emploie le terme « germe », qui est un terme proche de « rejeton ». Il régnera avec sagesse et il exercera le droit et la justice dans le pays. Alors je repose la question, est-ce que les hommes du temps de Jésus ont compris qu'il était, lui, le roi annoncé? Quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que le plus clairvoyant, c'était un aveugle. J'ai pu retrouver sa photo. Marc 10, verset 46. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les autres veulent le faire taire, mais tais-toi, tu ne sais pas ce que tu racontes. Jésus le fait venir et accède à sa demande de guérison et ainsi valide que l'aveugle était bien clairvoyant. Il était bien le fils de David qui avait tout pouvoir. Et nous-mêmes, comment avons-nous discerné qui est Jésus? Il veut être notre roi, il veut régner sur notre cœur. Il veut déjà introduire dans nos vies le royaume parfait où le mal n'a plus sa place, où le péché est réglé. Puissions-nous le laisser régner. Ce qui m'a frappé il y a 2 semaines, c'est quand tu étais de prédication, Fred, de première partie, Fred, et où tu as donné le Notre Père. Cette interruption de Dieu dans le Notre Père, où il dit que ton règne vienne, et Dieu qui dit, mais est-ce que je règne déjà sur ta vie? Est-ce que le Seigneur règne sur nos vies? Lui qui est le roi qui était promis. Merci.